Vous écoutez, on lit pour vous.
L'inaccessible cohabitation durable. Un texte de Louise Maude Rioux-Soucy, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir. Avec la série Point de bascule, l'équipe éditoriale remonte la ligne du temps jusqu'au référendum de 1980 et braque les projecteurs sur des Québécois dont le legs a marqué notre paysage sociopolitique. Aujourd'hui, la crise d'Oka, par la voix de Katsi Tsakwas, Ellen Gabriel. Sur papier, la crise d'Oka aura duré 78 jours. Chaque anniversaire depuis s'entête à nous rappeler que ces braises couvent encore. 35 ans plus tard, on pourrait même croire que le temps a suspendu son vol, tant les plaies d'hier sont toujours vives et les relations tendues aux abords de la Pinède où tout a basculé le 11 juillet 1990. Ce jour-là, le caporal Lemay sera tué pendant une descente policière bâclée. L'opération visait à démanteler une barricade autochtone élevée pour protester contre l'agrandissement d'un terrain de golf sur un cimetière ancestral. S'ensuivra un siège armé, une anomalie en soi dans l'histoire du Québec, qui verra aussi la mort d'un aîné Mohawk, Joe Armstrong, terrassé par le stress peu après avoir été la cible de manifestants armés de débris et de pierres, alors qu'il prenait part à un convoi d'évacuation avec d'autres aînés, des femmes et des enfants. La résolution douloureuse du siège servira de prélude à la commission Erasmus-Dussault. Celle-ci jettera les bases d'une redéfinition des rapports entre autochtones et non-autochtones qui reste à faire des décennies plus tard. Il y a eu des avancées, bien sûr. Des exemplaires comme la paix des braves, une entente de nation à nation conclue entre les Cris et le gouvernement Landry. De puissants électrochocs aussi, comme l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ou la commission Vient sur les relations entre les autochtones et nos services publics. Mais leurs recommandations tardent à s'incarner dans le réel. Il suffit de regarder du côté de Kitsisakik pour mesurer combien la justice n'avance pas au même rythme pour tous. Jusqu'à il y a quelques jours, la communauté Anishinaabe n'avait pas d'électricité. Et d'un océan à l'autre, des dizaines de réserves autochtones vivent sans eau potable. Un laisser-faire semblable s'observe autour de la Pinède. Personne ne veut d'une nouvelle crise d'Oka. Mais la vérité, c'est que, tant à Ottawa qu'à Québec, on a échoué à mettre en place les fondements essentiels à l'instauration d'une cohabitation durable entre Kanesatake et Oka. On accepte donc que la vie s'organise sur des fondements inflammables. Et même si des voix de bonne volonté se retrouvent autant au sein de la communauté Mohawk que parmi les Oquois, tous sont condamnés à rejouer dans le même film usé par trois siècles de tiraillements territoriaux irrésolus. À Kanesatake, la vie elle-même est plombée par une gouvernance interne viciée et des activités illicites mêlant trafic de cannabis et déversement de déchets toxiques. L'horizon paraît si bouché qui sont nombreux à peiner à imaginer que la lumière puisse s'y frayer un chemin. L'artiste et militante écoféministe Katsi Tsakwas, Ellen Gabriel, elle, y arrive. La documentariste avait 31 ans quand elle a été choisie comme porte-parole de la résistance autochtone en 1990. Depuis, ses convictions n'ont jamais faibli. Sa voix non plus, y compris aux heures les plus sombres, alors que l'extrémisme autochtone sera classé dans la catégorie « terrorisme intérieur » ou « extrémisme intérieur ». Il le restera d'ailleurs tout au long des années 1990, comme le montrent des documents déclassifiés du Service canadien du renseignement de sécurité récemment rendu public par CBC Indigenous. Dans ces pages, la Mohawk Warriors Society, une organisation traditionnaliste peu structurée, est décrite comme un groupe rebelle et paramilitaire potentiellement armé et déterminé à défendre ses intérêts. Une lecture que réfute Mme Gabriel, dont l'avis concorde avec les observations de la Gendarmerie royale du Canada. Celle-ci a en effet conclu qu'aucune des armes que les Warriors étaient soupçonnés de posséder n'avait été retrouvée, à l'exception d'un fusil semi-automatique saisi dans la maison longue de Kanawake. Depuis le siège de Kanesatake, Katsi Tsakwas Ellen Gabriel travaille à déconstruire un discours qui voit une menace dans la ténacité de son peuple à protéger ses valeurs et son territoire. Elle l'explique en des termes collectifs qui dépassent la mission d'une seule femme. Le territoire, explique-t-elle, est celui qui enseigne, donne la vie et la préserve. La survie de son peuple, comme de sa culture et de son identité, y sont donc étroitement liées. Depuis leur petite bulle de France, suspendus au nord d'un continent anglophone, les Québécois sont bien placés pour le comprendre. Dans « Quand tombent les aiguilles de pin », publié en 2025, Katsi Tsakwas Ellen Gabriel trace aussi des parallèles entre le combat des Autochtones et celui d'une humanité livrée à la dureté d'un monde en contexte de polycrise climatique, politique, économique et technologique. Sa foi en la puissance du collectif contre tout ce qui rapetisse, divise et blesse rappelle au premier comme au second l'infinie puissance d'une solidarité à réenchanter. C'était l'inaccessible cohabitation durable. Un texte de Louise Maude Rioux-Soucy, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir.
Pax transactionnalis ou quand la géopolitique devient une télé-réalité. En sous-titre, dans un monde saturé de signaux contradictoires comme le nôtre, qui décide de ce qui est réel? Le texte est signé par Gilles Zedima, en deux mots Z-E-H et Dima, D-I-M-A. Le signataire est auteur indépendant. Texte publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026. Imaginez un jeu d'échecs où l'un des joueurs passait son temps à crier, à renverser l'échiquier et à changer les règles à chaque tour, tout en produisant en direct un commentaire épique sur sa propre grandeur. Le véritable enjeu n'est plus de gagner la partie selon les anciennes conventions, mais de saturer l'esprit de l'adversaire au point de la rendre incapable de penser deux coups à l'avance. Bienvenue dans l'ère de la Pax Transactionalis, une forme émergente d'ordre international dans laquelle la puissance dominante ne cherche plus à stabiliser le système par des règles, mais à le dominer par la saturation cognitive, l'imprévisibilité et la dissonance manufacturée. Le champ de bataille a changé. Il n'est plus seulement territorial ou économique. Il est désormais mental, logé dans l'écran de nos téléphones intelligents et dans le flux continu de l'information où se redéfinit ce qui est réel, normal et possible. Du soft power au pouvoir brut de la perception. Pendant des décennies, la puissance américaine s'est pensée et s'est exercée à travers un concept séduisant, le soft power, ou pouvoir de l'influence. Il s'agissait d'attirer, de persuader, de structurer l'ordre international par l'exemple de valeurs, d'institutions et de récits présentés comme universels. Cette grammaire de la puissance est aujourd'hui en crise. Une mutation profonde est à l'œuvre. L'influence ne cherche plus prioritairement à convaincre, mais à désorienter. Elle ne vise plus l'adhésion à un ordre libéral, mais l'imposition d'un nouveau logiciel international fondé sur la logique du « deal » transactionnel, de la mise en scène permanente et de l'instabilité calculée. Il ne s'agit pas ici de réduire cette évolution à la psychologie ou au style d'une administration particulière. Cette logique, certes radicalisée à certains moments récents, révèle une transformation plus large et plus structurelle de l'exercice de la puissance à l'ère des plateformes, de l'économie de l'attention et de la communication en temps réel. Deux mécanismes médiatiques centraux président à ce réalignement cognitif forcé. L'armement de la dissonance cognitive qui détruit le sens, et la saturation par le spectacle qui détruit le temps stratégique. L'armement de la dissonance cognitive, détruire le sens partagé. La première stratégie est la plus insidieuse. Elle consiste à rendre la réalité géopolitique volontairement illisible selon les cadres d'interprétation hérités du multilatéralisme et du droit international. L'objectif n'est pas tant de produire une nouvelle cohérence que de saper la possibilité même d'une lecture stable du réel, ce qui paralyse la capacité d'anticipation des adversaires comme des alliés. Cette tactique repose sur la production systématique et publique de contradictions flagrantes, des déclarations d'escalade extrême suivies de retraits unilatéraux soudains, des sanctions maximales imposées à un partenaire puis levées après une négociation spectaculaire, des engagements solennels en faveur des alliances aussitôt relativisées par des menaces tarifaires ou sécuritaires. Pris isolément, chacun de ces gestes peut faire l'objet d'une analyse rationnelle. C'est leur enchaînement erratique, délibérément contradictoire, qui produit un effet de brouillage cognitif durable. Comme l'a récemment souligné Le Devoir dans une analyse de Fabien Deglise, cette pratique instille, citation, un état permanent d'incertitude, d'incompréhension et d'inquiétude. Fin de citation. Les diplomaties, les marchés et les rédactions sont happés par une quête sans fin de sens. Que faut-il prendre au sérieux? Qu'est-ce qui relève de la posture, de la menace réelle ou de la simple diversion? Le but n'est pas tant de gagner un débat sur les faits, mais de rendre les faits eux-mêmes instables et toute contre-argumentation cohérente impossible. On ne conteste plus un cadrage, on dissout la crédibilité du cadre lui-même. Le spectacle et la saturation cognitive détruisent le temps stratégique. Si la dissonance cognitive s'attaque à la cohérence du réel, la saturation par le spectacle vise une autre ressource essentielle, le temps long de la décision stratégique. Elle opère par un feu roulant médiatique continu, conçu pour fragmenter l'attention et épuiser la capacité de projection des acteurs internationaux. Le calendrier géopolitique récent offre une succession presque ininterrompue d'annonces tonitruantes, de crises déclarées et de retournements spectaculaires, chacune chassant la précédente de l'espace médiatique avant même que ses conséquences n'aient pu être évaluées. Ce chaos apparent n'est pas un accident de communication. Il fonctionne comme une véritable chaîne de production du spectaculaire où chaque crise devient un épisode d'une télé-réalité géopolitique mondiale destinée à occuper en permanence l'agenda politique et informationnel. Cette dynamique illustre concrètement l'obsolescence des unités collectives de décision. Prenons le cas de l'Union européenne. Comment élaborer une vision stratégique cohérente à l'horizon 2030 sur la défense, l'autonomie technologique ou la relation avec la Chine, lorsque l'essentiel du capital politique est absorbé par la gestion réactive du dernier choc transactionnel venu de l'extérieur? La saturation cognitive enferme les acteurs dans une logique de court terme, neutralisant toute capacité de planification et réduisant les ensembles politiques complexes à une juxtaposition d'intérêts nationaux divergents. C'est l'équivalent géopolitique du défilement morbide, doom scrolling, une succession anxiogène d'événements qui empêche toute réflexion profonde et toute action préventive. Conséquences et résistances, l'urgence d'une souveraineté cognitive. Le résultat combiné de ces deux offensives est un environnement international où la prévisibilité, fondement de la diplomatie, des alliances et des investissements, se trouve profondément érodé. Ce climat favorise structurellement les régimes autoritaires, capables de contrôler plus étroitement leurs espaces informationnels et fragilise les démocraties libérales dont le fonctionnement repose sur le débat public, la délibération et l'existence de repères factuels partagés. Face à ce pouvoir brut de la perception, les réponses classiques, plus de dialogue, plus de sommets, plus de déclarations communes, apparaissent insuffisantes. Il devient nécessaire de penser une nouvelle forme de résilience, la souveraineté cognitive. Celle-ci ne se réduit ni à l'autonomie militaire, ni à la souveraineté technologique. Elle désigne la capacité collective d'un espace politique à protéger son environnement mental, à produire et à maintenir une narration stratégique autonome et à investir dans les infrastructures de la pensée, médias indépendants, recherche, éducation critique, capables de résister à la désorientation imposée de l'extérieur. Les débats européens sur l'autonomie stratégique prennent ici une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de capacités matérielles, mais de la préservation d'un espace de décision fondé sur le temps long, la cohérence et la délibération collective. La bataille des réalités. Le grand affrontement du 21e siècle ne se jouera pas uniquement avec des armements conventionnels ou des chaînes d'approvisionnement technologiques. Il se jouera dans la capacité des sociétés à définir ce qui fait la réalité, normalité et horizon commun. La Pax transactionnaliste ne peut s'imposer durablement que si ses cibles acceptent son rythme, son cadrage et sa logique de réaction permanente. La première forme de résistance est donc cognitive. Elle consiste à refuser l'enfermement dans l'urgence spectaculaire, à restaurer les conditions de la pensée stratégique et à réhabiliter le langage de la complexité et du long terme. L'enjeu ultime est épistémologique autant que politique. Dans un monde saturé de signaux contradictoires, qui décide de ce qui est réel? De la réponse à cette question dépendra la nature de l'ordre international à venir, un monde de transactions brutales et de réalités fragmentées, ou un monde où le conflit, inévitable, demeure néanmoins encadré par des règles du temps et du sens. Fin de ce texte titré « Pax transactionalis ou quand la géopolitique devient une télé-réalité », signé Gilles Z. Dima et publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026. Texte publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026.
Cessons au moins de chauffer le dehors. Un texte de Boucar Diouf, paru le 15 novembre 2025 dans la presse. C'est fou combien perdre l'électricité, surtout en hiver, est anxiogène. Pendant près de 24 heures, comme des centaines de milliers de Québécois, nous avons encore perdu le courant. Je dis bien « encore », car le phénomène est de plus en plus fréquent. Lorsque nous avons enfin vu jaillir la lumière, c'est comme si le paradis s'était invité dans notre bungalow. Évidemment, le froid est un facteur explicatif majeur de cette anxiété. Cependant, même en plein été, perdre le courant nous stresse, car nous ne savons plus comment vivre sans cette facilité. Je parle ici d'une grande majorité des Québécois, car il reste encore une minorité de survivalistes capables de se passer d'Hydro-Québec. Cette dépendance au confort est universelle. J'ai grandi dans une famille de paysans sans eau courante ni électricité. Jusqu'à l'âge de 20 ans, entre l'agriculture vivrière et la vie de berger, j'ai parcouru la savane, écouté les oiseaux et laissé la nature cultiver le biologiste que je suis devenue. On buvait l'eau des mares, on chassait le petit gibier avec nos chiens et on récoltait du miel et des fruits sauvages. Malgré cet historique de simplicité involontaire, aujourd'hui, même en plein été, perdre l'électricité me fait sécréter des hormones de stress. J'ai été rattrapée par ce que ma mère appelait le pouvoir anesthésiant du confort. Pour que maman puisse vieillir plus confortablement avec papa, nous avions construit, il y a quelques années, un bâtiment moderne avec l'eau, l'électricité, l'air climatisé et des toilettes attenantes aux chambres. Son quotidien allait ainsi être plus agréable, pensait-on. Une fois le bâtiment équipé, maman nous a avoué qu'elle ne tenait pas à y emménager, qu'elle était très bien dans sa vieille chambre. Bref, elle déclinait notre offre. Avec une pertinence digne des grands penseurs, maman a argué pour justifier sa décision. « Boucar, n'as-tu pas remarqué que le confort nous isole et qu'il nuit à nos chances d'être plus facilement contentés dans la vie? Regarde-toi, mon fils. Tu as grandi dans cette famille où nous buvons l'eau des puits depuis toujours, où nous nous asseyons correctement sur les nattes et où quelques piqûres de moustiques ou le son des tambours ne nous empêchent pas de dormir. Depuis que tu vis au Canada, toutes ces choses qui jadis te simplifiaient la vie sont devenues des désagréments pour toi. » Si je m'installe dans cette chambre moderne et que je m'habitue à dormir avec l'air climatisé, je ne pourrai plus revenir en arrière. Et qu'arrivera-t-il quand ce climatiseur tombera en panne? Tu le sais, mon fils, que les pannes d'électricité sont légion dans la région. Je ne veux pas changer de vie à 75 ans. Je vais donc continuer à habiter ma modeste chambre et à faire ma sieste sous l'arbre à palabres étendu sur ma natte. Vous pouvez garder cet appartement pour vous, les enfants. Quand vous viendrez nous voir, ce bâtiment sera le vôtre. Surtout pour toi, Boucar, qui réapprends à vivre comme nous après avoir passé plus de la moitié de ta vie au Québec. Si très souvent les riches de ce monde ne fréquentent que leurs semblables, c'est parce qu'ils savent ces gens capables de leur offrir le niveau de confort auquel ils sont habitués. Quand on a connu ce que nous considérons comme un progrès, retourner en arrière est rarement possible. Personne n'est à l'abri de cette part d'humanité qui sommeille en chacun de nous, dit la mère de Boucar Diouf. Ce pouvoir anesthésiant dont parlait ma mère est au cœur de notre rapport à l'énergie au Québec. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour constater cette tendance à une augmentation du nombre de pannes dans le réseau d'hydro. Avec autant de lignes, de poteaux, de transformateurs aériens à sécuriser, ces coupures accidentelles d'électricité risquent d'être de plus en plus fréquentes en ces temps de tribulation climatique. Régulièrement, les arbres, le vent, le verglas et la glace nous rappellent que notre réseau est vulnérable. La fréquence et la durée moyenne des pannes ont augmenté au Québec. Un rapport du vérificateur général du Québec, VGQ, publié en décembre 2022, soulignait déjà ces lacunes dans la gestion des actifs du réseau d'Hydro-Québec. La même année, Hydro a publié sa stratégie d'adaptation au changement climatique intitulée « Plan d'action 2035 ». On y apprend qu'il faudra décaisser entre 45 et 50 milliards pour atteindre cet objectif de réduction de 35 % des problèmes d'ici 2035. On parle beaucoup de la nécessité d'enfouir les fils, mais qui paiera pour les sommes astronomiques nécessaires à ce chantier titanesque si le confort nous empêche aussi d'envisager la moindre hausse de tarifs? Il faudra inéluctablement parler du prix du kilowattheure et du gaspillage pour le particulier comme pour les industries. Au Québec, étant donné que le sujet se répercute très vite dans les sondages, tous les politiciens l'évitent comme la peste. Je suis de ceux qui croient que Pierre Fitzgibbon avait raison de remettre la sobriété énergétique au centre des conversions sérieuses que nous devons avoir. Baisser le chauffage durant la nuit et faire fonctionner le lave-vaisselle à des heures moins coûteuses sont effectivement des gestes qui font partie de la solution. M. Fitzgibbon préférait encourager la sobriété par des incitations, mais l'humain étant ce qu'il est, la pénalité devrait aussi être envisagée. Il faudra collectivement bousculer un peu notre confort et chasser cette impression de surabondance d'eau et d'électricité qui est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. L'idée ici n'est pas de pénaliser les plus vulnérables, mais de faire payer ceux qui abusent. Pensez aux gens qui, parce qu'ils ont de l'argent, investissent entre 10 000 et 25 000 $ pour chauffer leur entrée extérieure. Objectif? Faire fondre la neige pour ne pas pelleter. Ce n'est pas parce qu'on est capable de payer 2 000 $ d'électricité de plus par année au lieu d'installer un abri tempo que cette nouvelle pratique énergivore devrait être normalisée. Un abri d'auto-temporaire, ce n'est pas beau, mais endurer cet inconfort visuel est plus écolo et responsable que chauffer son entrée. Une importante surtaxe sur l'électricité gaspillée de la sorte pourrait freiner l'expansion de ce gaspillage. Si l'on veut promouvoir la sobriété énergétique, il faudra décourager les habitudes de surconsommation. Ce qui est valable pour l'électricité l'est tout autant pour l'eau. Malgré la fausse impression de surabondance qui nous habite, ces deux ressources sont loin d'être infinies. C'était « Cessons au moins de chauffer le dehors », un texte de Boucard Diouf, paru le 15 novembre 2025 dans la presse.